il est 13h.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago avec Marc, comme d'habitude chaque samedi de 13h à 15h. Bienvenue à tous pour ce 768e numéro. En ce samedi 29 août, on vient de démarrer comme pour tout l'été, toutes les émissions de l'été, juillet-août, avec le même disque du mois, donc disque de l'été. Mountain Man, le Springtime Coming, avec le titre de la plage 12, Rabbit. Voilà, les Mountain Man, Mr. Matt et Barefoot Yano. Superbe album que je vous conseille. conseils, bien sûr, distribués par Mosaïque Musique. Comment allez-vous ici? Ça va pas trop mal, il fait beau, le week-end démarre bien. C'est le dernier week-end des vacances. Et oui, il faut bien rentrer un jour, donc on va se faire plaisir avec plein de nouveautés. J'en ai prévu une bonne douzaine pour vous. Ce sera tout au long de ces deux heures ensemble, mais surtout dans la deuxième heure, avec quelques Américains, des disques qui sont des nouveautés pour certains sans en être vraiment. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont accumulées et puis qu'il a bien fallu sortir du placard parce que plus ça va, plus ça avance, plus il y a de disques qui arrivent dans les bacs de Sweet Home Chicago. On va pas s'en plaindre. Et on va démarrer dans quelques secondes avec le tout nouvel album de Mike Zito qui vient de paraître chez Eclecto Groove. Mike Zito qui était, il y a une petite dizaine d'années, l'un des protégés de Papa Chubby. Il a bien grandi depuis, vous allez vous en rendre compte. Le disque de la semaine, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est Jeff Healey. Donc cet album posthume CD plus DVD, Songs from the Road, que vient de sortir Roof Records, en fait initialement Stony Plain Records. On écoutera également des extraits de la discographie des gens qui vont se produire très prochainement au Subok, à savoir Janet Martin et Peter Nathanson pour le 4 septembre, c'est vendredi prochain. Et le 18 septembre, le Subok accueillera Little Bob, on écoutera un nouvel extrait. Et puis, un petit peu vers la fin de l'émission également, on rejettera une oreille sur l'album de Wayne Lavallée qui s'appelle Trail of Tears, qui était sorti au printemps chez Dixie Frog, parce que Wayne Lavallée est invité à venir se produire au Subok le 6 novembre prochain. On a le temps d'en parler. En attendant, voici Mike Zito avec Dirty Blonde.
Change your mind.
Blonde hair, making no man stare. The dirty blonde hair, now that dirty blonde hair is gonna dry.
ça c'est le titre d'ouverture du dernier album de Mike Zito qui s'appelle Pearl River. C'était la plage Dirty Blonde et puis Pearl River qui arrive juste après. Mais en fait, ben, je vous la passe pas aujourd'hui. Hein, ça sera pour une autre fois. Pearl River qui a été écrit et joué avec un certain Cyril Neville, s'il vous plaît. Et puis figure également sur cet album Susan Cousteel, Anders Osborne et Reese Winans. Voilà quelques invités qui accompagnent Mike Zito. Complément du sommaire tout à l'heure vers les 13h40-45, on va avoir au téléphone un invité, c'est Teddy Costa, leader du groupe Teddy Costa and the Thompsons, basé sur Bordeaux, un groupe que j'ai découvert lors du dernier Cognac Blues Passion, que certains ont découvert bien avant, mais forcément depuis, allez, on va dire depuis Noël, qui bossent à mort leur composition et leur jeu de scène, et ben ils vont finir par faire parler d'eux. Ça sera le cas aujourd'hui dans Sweet Home Chicago avec deux extraits de leur album Until My Days Are Gone. Voilà, au chapitre des Frenchies, il y aura également Little Bob, je vous l'ai dit. On reviendra sur les Voodoo Doctors dont j'avais interviewé le batteur Danny Agenet la semaine dernière. Et puis, c'est tout parce que en Frenchie Blues, si, il y avait Mountain Man tout à l'heure. Mais on va refaire un petit tour en Europe avec Carl Wyatt and the Delta Voodoo Kings, avec Anna Popovich, avec John Mayall et avec le dernier album de Jordan's Drive qui est un live sublime. Je vous en parlerai tout à l'heure pour ceux qui aiment les gens qui ressemblent aux Stray Cats. Voilà. On poursuit avec le disque de la semaine, je vous l'ai promis, c'est Jeff Healey, ce fameux double album posthume, en fait CD plus DVD, concocté par Stony Plain et Roof Records, Songs from the Road. Voici un extrait, c'est la plage 3, vous allez reconnaître Stop Breaking Down, Jeff Healey dans Sweet Home Chicago.
Down. Won't you
Filé, vous savez, qui nous a quitté au début de l'année dernière, début 2008. Et puis à l'intérieur de la pochette de ce CD plus DVD, c'est Christy Ely qui présente ses enregistrements de cette manière-là. Et qui dit tout le monde parmi nous dans la famille de Jeff, une famille qui inclut également des milliers et des milliers de fans partout dans le monde. Nous sommes très contents de la réalisation de cet enregistrement. Quand Jeff est parti, la maison semblait toute vide et je sais maintenant qu'il vous manquait autant qu'il me manque moi. Ceci dit, nous savons également qu'il était dans son élément, que ce soit en Norvège, à Londres ou dans n'importe quelle ville où il jouait. Signaler que ce disque est enregistré à trois endroits différents, à Londres, à Toronto et à Notodden. Voilà, je traduis en même temps ce que dit Christy Ely aujourd'hui. Plus d'un an après sa disparition, on vous recommande chaudement ce merveilleux enregistrement, donc Song from the Road. C'est le moyen pour vous de vous rappeler de qui était Jeff Ely, quelqu'un de souriant, de riant, de jouant et chantant. En donnant tout de son cœur, venant de son cœur, voilà. Nos remerciements pour garder Jeff dans vos mémoires. C'est signé Christy Ely, voilà. Je vous signale que c'est le disque de la semaine, donc on y reviendra par deux fois dans cette émission. Je vous rappelle également que tout à l'heure, on recevra Teddy Costa de Teddy Costa and the Thompson au téléphone pour une interview pour parler de son album Until My Days Are Gone et de l'actualité du groupe. Mais en attendant, on va faire une petite virée du côté du Shoebox qui va se passer vendredi prochain. On va écouter enchaîner l'un à l'autre Janet Martin et Peter Nathanson. Je ne sais pas si ça sera le cas sur scène, en tout cas, ça sera le cas dans Sweet Home Chicago. Voici Down to the Graveyard. Extrait de Step Inside the Dream de Janet Martin, suivi de Walking Blues, extrait du live de Peter Nathanson.
I'm going down to the graveyard, gonna dig some bones. I'm going down to the graveyard, I'm gonna dig some bones. When I find the truth, I'm gonna bring it back. Everything is clear.
Canada Danson, extrait de son album live Urban Blues. Juste avant, c'était Janet Martin avec l'un de ses grands succès, Down to the Graveyard. Ils seront tous les deux avec également Rico et Michael, donc en quartet, s'il vous plaît, sur la scène du Subok vendredi prochain à partir de 21h30. Si vous voulez gagner une place, c'est possible, non pas en téléphonant, ça a été fait la semaine dernière, mais il reste encore une place de concert à gagner pour partir à jeu sort sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Également en cadeau pendant tout le mois de septembre, il y a un exemplaire du CD d'Albert Cummings qui s'appelle Feel So Good chez Dixie Frog. Deux places de concert pour Little Bob au Subok à Coville vendredi 18 septembre prochain. Cinq exemplaires du CD des Mountain Men Springtime Coming chez Mosaic Music. Également à gagner des places de concert pour Amar Sundi et Down Tyler Watson avec Paul Delaurier à La Traverse à Cléon le samedi 3 octobre. Et un exemplaire du CD de Rob Tognoni qui s'appelle 2010 décibels chez Blues Boulevard Music Avenue. Voilà, rendez-vous sur le site internet blues.radio666.com. Et si vous êtes un fidèle auditeur, gardez en tête le 02 31 94 66 66. Il y aura un petit cadeau pour vous un petit peu plus tard dans l'émission. On poursuit avec Little Bob, justement, qu'on attend au Subok à Coville le 18 septembre prochain. Voici un extrait de l'album Time to Blast. Ça s'appelle Ringo Levio is Far Away.
For money, everybody's moving for cash. Dreams are on sale, you gotta hack the trash. Hey, motherfuckers, we've lost paradise. You can fight it in computers. It's anybody's size. Everybody's got to be beautiful. Everybody's got to be clean.
Voilà, des fois on y laisse une petite part de rêve, hein. C'est vrai, Letterboxd nous dit hey, tout le monde pense au cash, tout le monde pense au flouze, voilà, c'est comme ça. Donc c'était Ring of Views Far Away. On va continuer en Frenchie, s'il vous plaît, avec Teddy Costa and the Thompsons. On aura le leader tout à l'heure au téléphone. On va découvrir un extrait de cet album Until My Days Are Gone. Ça nous vient de Bordeaux. J'ai découvert ce groupe lors du dernier Cognac Blues Passion. Teddy Costa and the Thompsons. Voici la plage 2 de leur album Good Evening, Everybody.
Ladies, how do you do? Good evening, everybody. Tell me, ladies, how do you do? I'm Teddy Costa. I'm gonna swing your blue. Good evening, everybody. Tell me, ladies, how do you do? Good evening, everybody. Tell me, ladies, how do you do? I'm Teddy Costa. I'm gonna swing your blue. Yeah, yeah. Ladies, how do you do? I'm Teddy Costa, I'm gonna swing a blues. Good evening, everybody, tell me, ladies, how do you do? Good evening, everybody, tell me, ladies, how do you do?
Good evening everybody, c'est comme ça presque, à part la première plage de Robert, enfin une reprise de Robert Johnson, c'est presque comme ça que démarre cet album. Good evening everybody, bonsoir tout le monde. Teddy Costa and the Thompsons, bonjour Teddy, comment ça va?
Bonjour Marc, ben écoute, ça va très très bien.
Bon, est-ce qu'il y a moyen de t'entendre un petit peu plus fort ou est-ce que c'est ma faute, je sais pas si...
Non, c'est peut-être mon téléphone, je vais parler un peu plus fort alors.
Ouais, alors on va dire ça, et puis moi je vais baisser mon micro, comme ça tout va bien. Comment ça va du côté de Bordeaux? Fait beau ou bien?
Écoute, tout va bien, on est encore en pleine saison, puisqu'on a la chance d'avoir le bassin d'Arcachon à côté, où on fait pas mal de concerts l'été.
Et puis il y a eu encore un concert hier soir, vous n'arrêtez pas en ce moment là?
Ouais, ça bouge beaucoup en ce moment pour Teddy Costa, ouais, c'est vrai.
Alors Teddy Costa, And Thompson, c'est bien ça, hein, donc ça, ça évoque la mitraillette des années 20-30 d'Al Capone.
C'est ça, c'est exactement ça. Ben, en fait, on a une réplique de cette mitraillette avec nous sur scène.
Ah ben, j'ai vu ça, oui. Et puis il y a une belle photo d'ailleurs que j'ai retrouvée sur internet. Vous êtes tous les quatre super bien fringués avec cette fameuse mitraillette Thompson qui est une originale, une authentique.
C'est un jouet.
Oui. Oh, on dirait pas sur la photo, d'accord. Bon, alors j'allais te dire, attends, ici Elliot Ness, ne bougez pas. Non, en fait, non, vous êtes complètement innocent, vous n'êtes pas dans l'affaire, les gars. Teddy Costa and the Thompsons, pourquoi le nom de ce groupe au départ? C'est parce que vous êtes tous habillés comme des gars des années 20, des gars un petit peu, des potes d'Al Capone, non? C'est ça, l'idée?
Ça s'est fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'au départ, je cherchais un pseudonyme. Puisque Teddy Costa n'est pas mon vrai nom, je m'appelle Jean-Luc Rouget.
Ouais.
Et alors je cherchais Jean-Luc Rouget Quartet et je me disais non, pour un groupe de blues ça va pas aller. J'ai deux garçons qui s'appellent Théo et Adrien, Théo et Didi, donc Teddy j'ai trouvé très
bien. Ah bah d'accord.
Ouais. Et après on cherchait le nom de famille. Et mon grand-père maternel qui s'est barré d'Italie à l'époque des chemises noires avec les frangins et les frangines sous les bras s'appelait Costa. Donc voilà, Teddy Costa était né à partir de ça et on s'est dit bah tiens ça fait pas très américain en fait, ça fait plutôt italien, plutôt mafieux, etc.
Ouais.
Et donc on va jouer cette carte là. Les costards, les pompes bicolores, la montre à gousset, le borsalino, et puis la mitraillette est arrivée après.
Et la mitraillette en plus, et la totale sur scène, hein, parce que c'est vrai que sur scène, c'est également le cas. T'es dit costard pour tout le monde. Hein. Alors, ouais. Quand on remonte ta passion pour la musique, t'es dit, au départ, c'est venu comment ça?
Bah écoute, j'étais un gamin d'une dizaine d'années perdu au fin fond du Gers au départ et je me suis mis à l'harmonica complètement par hasard.
Ouais.
J'ai jonglé pendant pas mal d'années ensuite entre l'harmonica, le rugby, les copains, etc.
Complètement par hasard l'harmonica, tu veux dire que tu es comme beaucoup tombé sur une méthode de Jean-Jacques Milteau, non?
Pas du tout.
Non?
Écoute, je vais te raconter l'histoire, elle est très courte.
Ah bah vas-y, ouais.
Quand t'es un petit garçon de 10 ans, t'adores jouer aux voitures en général, aux petites voitures.
Oui, je me souviens, ouais.
Mon père avait un de ces gros harmonicas à double côté, et je m'étais dit que ça ferait un bus génial. Manque de bol, évidemment, au bout d'une semaine, l'harmonica était en pièces détachées. Donc je suis allé à la capitale, à Tarbes, racheter un harmonica pour mon père et le vendeur m'a vendu un petit diatonique 10 trous, je connaissais pas ce truc-là et je me suis mis à souffler dedans. Et l'aventure a commencé comme ça.
Ah bah c'est sympa ça.
Voilà, et je suis arrivé donc à Bordeaux il y a une dizaine d'années, et où là j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu véritablement un ami, qui était déjà un bluesman à l'époque. Lui m'a fait découvrir le blues et j'aime autant te dire que c'était à ce moment-là j'ai pris une gifle monumentale.
Et ce garçon s'appelle comment?
Pardon?
Ce garçon dont tu parles, qui
Jean-Noël
t'a fait...
Hervé.
Pardon?
Jean-Noël Hervé,
d'accord.
Il a un trio qui tourne très très bien aujourd'hui en blues qui s'appelle le Howlin' Blues Trio,
ouais.
Avec un contrebassiste et puis un pianiste qui est Vincent, qui est Vincent Jamais, qui joue également du piano, avec qui j'ai joué d'ailleurs hier soir.
D'accord.
On est devenu une bande de potes, là on est une dizaine, et puis on s'échange un peu les musiciens de temps en temps, voilà, ça arrive.
Alors le groupe a démarré quand en tant que Teddy Costa and the Thompson? 2004.
Ça a démarré en 2004 avec au départ un pianiste,
ouais.
Qui nous a quittés ensuite pour aller faire ses études, continuer ses études à Toulouse. Et on avait également un bassiste qui en fait n'était pas un bassiste mais qui était un guitariste de jazz.
Oui, que t'es déjà Patrice Fugas ou pas?
Non, pas du tout, pas
non.
Du tout. On a embauché Patrice parce que notre bassiste lui aussi passait des diplômes musicaux, il pouvait plus assurer les dates. Et
ouais.
Donc on a embauché Patrice et donc il lui nous a amené par son expérience des Flying Saucers, puisqu'il avait été le premier bassiste des Flying, qui est un groupe qui avait déjà pas mal de vécu au niveau festival, au niveau grosses dates. Donc Patrice nous a amené cette expérience-là et nous a un petit peu drivé dans le groupe en nous disant voilà, il faut prendre telle direction, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc on a suivi les conseils de notre bassiste bien-aimé. On a embauché ensuite donc Stéphane Barincourt à la guitare, qui est un guitariste en mon sens extraordinaire.
Et qui joue aussi du banjo, je crois. Hein.
Et en plus, c'est agaçant, il sait tout jouer. Heureusement qu'il joue pas d'harmonica.
Alors lui aussi il est diplômé du SIAM, hein, mais il est quand même autodidacte, c'est-à-dire qu'il commence à jouer tout seul un petit peu comme toi et ensuite on s'intéresse aux études musicales, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc, pourquoi finalement apprendre tout seul et puis ensuite se dire je vais quand même faire des études de musique, c'est parce que j'ai pris des mauvaises habitudes, c'est parce que j'aimerais en savoir davantage, c'est parce que j'ai... Voilà, quelle est la raison en fait?
Bah écoute, en ce qui me concerne, je vais pas parler à la place des copains, je sais non, pas non, trop ouais. pour eux, mais pour moi, moi j'ai joué, j'ai pendant plus de 20 ans, j'ai joué les Pogues, j'ai joué Enola Gay, j'ai joué les classiques du folklore américain.
Ah, tu faisais du bal alors?
Et bah oui, et ouais. Donc j'avais des bases solides, mais je n'avais que les bases.
D'accord.
Et lorsque j'ai découvert le blues, je me suis passionné d'abord pour la musique, mais évidemment pour l'histoire de ce peuple afro-américain, et donc j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup, je me suis documenté. Mm-hmm. Et finalement, je pense que la technique, la formation musicale, elle vient aussi par la culture musicale.
Ah oui, oui, complètement.
À part d'écouter de cette musique-là, en l'occurrence le blues, bah, tu finis par... Bah, tu sais, c'est le matraquage, tout simplement, mais le matraquage, on se le fait aussi à la maison. C'est-à-dire que moi, quand je bosse un nouveau morceau ou un nouveau plan à l'harmonica, je vais l'écouter en boucle pendant une semaine.
D'accord.
Non-stop. Ça agace royalement ma femme, mais c'est pas grave.
Ah, c'est pas grave. Attends.
Véritablement travailler le morceau, il finit par ressortir tout seul.
D'accord. Alors on va récapituler tout ça. Donc toi, tu t'es dit, tu fais l'harmonica, le chant. Tu joues un petit peu de slide guitare également sur l'album. Il y a également Steph Fingers, Barincourt, guitare et banjo. Patrice Fugas à la basse. Et on n'en a pas parlé. Fred Froignant à la batterie, c'est toujours lui, hein, c'est ça?
C'est toujours lui, oui. On voilà. est les deux piliers du groupe depuis le départ.
D'accord.
Fred, je l'ai rencontré dans une école de jazz. Puisqu'en fait, à l'époque, j'avais quand même décidé de suivre une formation, histoire de ne pas mourir idiot. Et donc il y a une école de jazz ici à Bordeaux, donc il y a le SIAM, mais il y a également Joseph Ganter. Et on a été élèves ensemble dans cette école.
D'accord. Alors au départ, donc on a bien compris ta passion du blues, mais tes influences, quels sont tes disques de chevet, quels sont les gens que tu écoutes le plus, que ce soit au niveau du chant ou au niveau de l'harmonica? Est-ce que tu aurais une double réponse à proposer?
Une double réponse, c'est difficile parce
C'est-à-dire une réponse voilà pour
tes chanteurs préférés.
Tes chanteurs préférés, et voilà, carrément.
J'ai une passion pour Skip James.
Ouais.
Je trouve sa façon d'aborder la guitare et la voix est vraiment extraordinaire, vraiment géniale. J'aime beaucoup Robert Johnson, j'aime beaucoup Big Bill Bronzy. Le personnage était assez étonnant. En fait, j'aime bien le blues très roots, le blues vraiment de l'époque.
D'accord.
À l'harmonica, je suis plus orienté sur Sonny Boy, sur Little Walter. J'aimerais bien y arriver, mais j'ai du mal.
Ah, donc tout ça, c'est l'old school, en fait. C'est, on va dire, le blues années 40-50, pour voilà, simplifier, c'est quoi, hein, c'est ça.
C'est
et
ça.
Tu continues à écouter ces disques-là qui sont réédités en CD?
Ah oui, j'écoute en CD en boucle. Y a quelqu'un d'un petit peu nouveau dans mon parcours. Qui est Snooky Pryor, en fait, que j'avais rencontré, j'ai pu le rencontrer il y a 4-5 ans
à Cognac. Festival
de Cognac.
Ben oui.
Et là, ben, nouvelle baffe monumentale.
Ben oui.
Et il y avait Nico Wayne Toussaint, d'ailleurs, je me rappelle, et puis Longe, et puis d'autres de la région qui étaient là. Mm-hmm. Et on avait tous, mais tous, l'œil qui brillait, quoi. On
se disait
tous,
bon sang,
mais c'est bien sûr, c'est comme ça qu'il faut jouer.
Et c'est vrai, et puis depuis, Snooky Pryor nous a quittés, mais Mel Brown également, le guitariste de Snooky, nous a quittés cette année, d'ailleurs. Ouais, c'est toute une génération qui s'en va. Tu parlais tout à l'heure des Flying Saucers, dont faisait partie ton bassiste Fabrice Fugas. Tu sais que les Flying Saucers avaient été le premier groupe à remporter le premier tremplin blues sur scène, c'était en 2000.
Ouais.
Est-ce que, à titre indicatif, est-ce que vous vous êtes inscrit pour cette année?
Alors écoute, on a tenté blues sur scène l'an dernier.
Ouais.
J'ai eu quelques échos, il paraît qu'on n'a pas été pris, hein, mais il paraît que c'est pas passé loin.
Ouais.
On n'avait pas encore l'album, on avait une démo qui valait ce qu'elle valait, mais bon. On espère que cette année, ça va mieux se passer pour
nous. Vous avez repostulé avec l'album qu'on vient d'entendre et qu'on va entendre, dont on va entendre un extrait tout à l'heure.
Il faut jamais lâcher le morceau.
Complètement.
La vie entière fonctionne comme ça. Et lorsque tu as un objectif, il faut le tenir et puis il faut y aller, quoi.
Alors tu disais avoir vu Snooky Pryor et Mel Brown donc à Cognac, ça veut dire que tu es un fidèle de Cognac peut-être en tant que spectateur. Et qu'est-ce que ça représente pour
ouais. Depuis que je suis arrivé à Bordeaux, en fait, on y va justement avec la bande de copains, de musiciens dont je te parlais tout à l'heure.
C'est cool, d'accord.
Chaque année, on loue deux ou trois emplacements au camping et puis on va faire la Java pendant une semaine là-bas sous la tente. Et finalement, c'est aussi sympa dans le camping même, parce qu'il n'y a que des musiciens, donc on fait les grillades et on fait le bœuf en même temps. Et puis après, on va voir les concerts, évidemment, dans les bars en bleu et puis sur les grosses scènes.
Alors justement, la question qui allait venir, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour toi et pour vous, le groupe, d'avoir joué cet été à Cognac?
C'est un rêve de gamin, un petit peu. Ouais. De gamin, je sais pas. Quand j'étais gamin, j'imaginais pas un jour devenir musicien professionnel, mais c'est pas un aboutissement, c'est une belle récompense. Voilà, je vais dire ça comme ça.
D'accord.
Belle récompense au niveau de la reconnaissance, d'avoir été choisi pour aller parmi la quinzaine de groupes qui ont animé les Barons Bleus cette année. Et puis ensuite, eh bien, l'aventure s'arrête pas là et on espère d'abord y retourner et puis peut-être, pourquoi pas, on commence à penser à un prix éventuellement un séjour.
Oui, et puis le tremplin bleu sur scène apportera peut-être aussi une autre moisson, qui sait. En tout cas, les concerts ont l'air de s'accumuler. Je suis allé voir sur le MySpace de Teddy Costern et de Thompson's, là. Donc jeudi, vendredi, cette semaine, c'est passé. Je sais que vous avez fait le festival blues de l'huître à Dolus, hein, à l'île d'Oléron. Il y a l'ami Jalbi qui était là, que je salue. Jalbi, salut. Et puis, ça s'est pas très bien passé pour vous. Il y a eu une grosse averse, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. On n'a pas pu finir le concert.
Mais vous avez quand même bouffé des huîtres toute la soirée et puis écoutez autres les autres groupes qui s'y produisaient. Il y a une chose que j'aime bien savoir, moi, par rapport quand j'interviewe un membre de la congrégation des bluesmen français, c'est savoir ce qu'il pense de la scène blues française. Comment est-ce que tu considères la scène blues française au regard, tu l'as dit, ça fait déjà quelques années que tu en écoutes et que tu en joues, au regard de tout ce qui s'est passé, on va dire, depuis 10-15 ans, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement? Est-ce que, si oui, lequel?
Ça, c'est la question piège.
Ah, mais je te demandais pas forcément de nom. Hein.
Non.
On va être généraliste.
Écoute, très honnêtement, la scène blues française, je vais avoir une réponse qui va peut-être choquer tout le monde, mais je la connais pas bien, parce que tu sais, quand tu es en concert 2 ou 3 ou 4 soirs par semaine, déjà, tu as peu de temps pour aller voir les autres concerts, malheureusement. Ce que je sais, c'est que par exemple ici à Bordeaux, on a une scène blues qui est quand même assez étoffée, assez sympa, avec des musiciens de très très grande qualité. Je pense à Sam Chang, je pense à Anthony Stelmazac, je pense à Longe, qui sont des gens qui sont quasiment tous primés et qui sont vraiment en plus super sympas. Après, c'est vrai que ce que je regrette un petit peu en France, c'est peut-être cette mentalité des Français qui fait que ou bien on est amateur de blues et auquel cas on va retrouver finalement les mêmes aficionados un petit peu partout dans tous les festivals, dans toutes les concentrations blues, ou bien on s'occupe pas du blues et on est bourré de préjugés et on se dit le blues c'est chiant, c'est le cafard, c'est etc.
Et t'as l'impression qu'il y a d'un côté
de la part du public, à mon avis.
Ouais, donc d'un côté pour toi il y a le grand public qui connaît pas vraiment le blues et qui n'a que des clichés en tête, et de l'autre tu as les puristes, les gens qui s'intéressent à fond et qui supportent pas le reste, c'est ça?
C'est ça.
Tu penses pas qu'il y a un juste milieu quand même?
Ouais, ben c'est un petit peu la démarche, c'est pour ça qu'on a adopté nous cette démarche de mettre en avant l'humour pendant les concerts, quelque chose qui est pas vraiment un concert, c'est un concert mais avec, je dirais c'est un show quoi, il y a la mitraillette, on fait les cons, moi je lis Midi Olympique pendant un solo du bassiste, enfin bon, on n'arrête pas de déconner là-dessus, pour essayer justement d'être peut-être un peu plus grand public. Alors ça veut pas dire c'est plus large, ça veut dire simplement aller prêcher la bonne parole à des gens qui a priori seraient pas venus voir un concert de blues et qui là vont partir enthousiasmés en disant ben, finalement on a passé une bonne soirée, on s'est bien marré, le blues ben, c'est pas chiant, c'est vachement rigolo.
Ah ben c'est clair, c'est un peu ce que j'ai repéré aussi dans un des textes qui parle de vous. Plus qu'un simple concert, Teddy Costern de Thompson propose un spectacle théâtral et humoristique autour du blues et délivre un message d'amour et d'humanité.
Ouais.
Hein? Et puis tu dis aussi, là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité, ça c'est une phrase de Jeanne Ionesco que tu cites, je ne peux qu'abonder dans ton sens, Teddy, il n'y a pas de souci là-dessus.
Tout à fait. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas osé mettre, qui est de des proches, c'est on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.
Mais pas avec n'importe qui, exactement, voilà. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, et puis il y a des gens qui le prendraient peut-être pour eux, tu as raison. Il y a des prochaines dates qui se profilent, et puis j'ai épluché un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité de Teddy Costern and the Thompson's. Déjà la semaine prochaine, vous allez retourner à Lenton, c'est ça, à côté d'Arcachon?
Oui.
Et ensuite, le vendredi 11, au nord-ouest de Bordeaux, à Essine, il y a un restaurant.
À Essine, oui, tout à fait.
Essine, excuse-moi.
Qui s'appelle le Limancé.
D'accord. Et
on
puis
a
ensuite.
Un mariage le samedi 12.
J'ai vu que vous avez des mariages. Oui, vous animez des mariages, c'est ça?
Ouais. On est dans une région où il y a beaucoup de châteaux.
Ouais. Ben oui, Château Lafitte, voilà.
Ouais, c'est une part importante aussi de notre travail. On ne peut pas jouer que dans les bars ou les restaurants. J'ai une autre info, tiens, à te donner en avant-première, en primeur. Mm-hmm. J'ai eu l'info ce matin par mon agent. On est pris pour aller jouer à Saint-Émilion le samedi 19 septembre. On
D'accord.
sera en duo, là, avec mon copain Stéphane, pour les journées du patrimoine. Voilà.
J'ai noté également une date importante pour le 21 novembre. Vous allez participer à la 17e nuit du blues à Léognan,
ouais.
En première partie du Chicago Blues Festival, hein, c'est ça?
Absolument.
Voilà, donc j'ai noté le Gang du Bois et puis le Chicago Blues Festival, pour ceux qui n'avaient pas encore noté la composition de cette 40e édition, ce sera avec Duna Greenleaf, Greg Wright et Zach Harmon. Voilà, c'est quand même sympa ce genre de programme.
Ah, ça va être très sympa, je pense.
Je sais que sur Léognan, ça se passe toujours très bien. Il y a quelqu'un qui s'en occupe là-bas, qui fait les choses aux petits oignons, tu
oui,
le connais sûrement.
Oui, s'en occupe très très bien, hein, c'est le président de l'association.
Voilà.
Et il fait les choses effectivement aux petits oignons, comme tu dis.
Comment s'est passé l'enregistrement de l'album? Ça fera partie de mes dernières questions. T'as dit, j'imagine qu'il y a eu des démos avant. Tu me parlais de 5 ans d'existence pour le groupe. Là, c'est un vrai album. C'est le premier de la série, c'est ça?
C'est le premier.
Mm-hmm.
C'est un vrai album, effectivement, avec du cellophane dessus et tout et tout.
Ah oui.
Ça a été ça. Par contre, c'est vraiment un rêve de gamin que j'ai assouvi très égoïstement. Alors, j'ai proposé à mes musiciens cette aventure, ils ont joué le jeu à fond et ça m'a permis d'aller dans un vrai studio et non pas dans un home studio. Alors j'ai rien contre les home studios, mais c'est vrai que faut quand même avouer que lorsque tu chantes sur un micro qui vaut 4000 euros, le son à l'arrivée il est pas tout à fait le même.
Ouais, puis on s'est rendu compte tout à l'heure au mixage que vous êtes un petit peu amusé, t'as même superposé deux armos, t'as joué avec gauche-droite au niveau de la balance.
Trois
armos, bon d'accord.
Ouais. C'est le bordel.
faut que je réécoute ça. Donc il y a 12 titres et puis il y a quelques compositions et puis quelques reprises, à peu près moitié-moitié, c'est ça? Non, il y a même plus
ça.
De compos, on dirait.
Ouais.
Tu parlais de Snooky Pryor, il est là, Big Bill Bronzy, il est là, Skip James, il est là, on retrouve également Robert Johnson, et puis notre père à tous, Muddy Waters, avec I'm Ready, hein, ça c'est le genre de truc que vous jouez sur scène.
De faire un premier album sans ces gens-là.
Ouais.
C'est vraiment, voilà, tu me posais la question tout à l'heure, qui sont les musiciens que j'écoute, tu les as sur l'album.
C'est ceux-là, d'accord, voilà. Parfait. Écoute, ce qu'on va faire, on a écouté tout à l'heure Good Morning Everybody, c'est une de tes compositions, c'est toi qui compose tout ça dans le groupe,
ouais.
Hein, c'est ça?
Ouais.
Et on va poursuivre, on va terminer donc l'interview, et on va continuer avec un autre titre qui s'appelle Rats in... Attends, je me trompe pas de...
Rats, si, in, si, my
Rats in My Kitchen, voilà, c'est la plage numéro 10.
Un petit peu ce morceau.
Eh ben vas-y, bien sûr.
C'est une chanson que j'avais écrite à l'époque pour un copain qui avait décidé d'arrêter l'alcool et il avait de gros problèmes avec l'alcool.
Ouais.
Parce qu'il avait bu beaucoup et longtemps. Et il m'a expliqué qu'en fait on a vraiment des alus et ça allait pas quoi. Donc je lui ai écrit cette chanson qui est un délire, c'est une chanson sur le délire alcoolique en fait, sur la folie alcoolique.
Tout d'accord. J'ai vu, ça sera peut-être ma dernière question, j'ai vu que tu dédies cet album à ton papa. Qui t'a fait aimer Béchette et Morricone. Voilà, ton papa qui a disparu, c'est ça?
C'est ça, ouais, qui est parti à cause d'une maladie à la mode il y a déjà pas mal d'années.
Mm-hmm.
Et voilà, c'était un petit clin d'œil à ce monsieur qui était un mec bien. Et la chanson de Skip James, en fait, lui est complètement dédiée.
Est-ce qu'il y a un rapport avec le morceau de Snooky Pryor que tu reprends, qui s'appelle Until My Days Are Gone?
C'est lorsque j'ai dit à mon entourage, parce que j'ai quand même, je suis pas tout jeune, hein, j'ai 41 balais, et lorsque j'ai expliqué...
Mais si, tu es tout jeune, voyons. 41 ans, c'est rien.
Lorsque j'ai expliqué à tout le monde que j'allais devenir musicien professionnel, les gens qui m'aiment, évidemment, pour me protéger, m'ont essayé de m'expliquer que non, c'était pas une bonne idée. La mort de mon père, en fait, m'a donné un électrochoc, et c'est un petit peu aussi le message, on parlait d'amour et d'humanité qu'on essaie de délivrer pendant les concerts. C'est un petit peu le message, en fait, c'est-à-dire que ça fait déjà quelques années que j'ai compris que ça servait plus à rien d'être le plus riche du cimetière, et qu'on n'a qu'une vie, et que voilà, il faut en profiter. Donc Until My Days Are Gone, c'est une signature, c'est un engagement, ça veut dire jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce que je ferai, c'est ce que j'ai choisi et c'est mon métier.
Mais t'as raison, écoute, c'est pas à 70 ans qu'on commence ce genre de choses de toute façon, et puis 41 ans, c'est le bel âge, hein, moi quand on est 46,
oui.
Si je peux te dire. Voilà Teddy, je te remercie beaucoup pour cette conversation très sympa autour de ce que tu fais et autour de ton répertoire. Et puis longue vie à Teddy Costa de Thompson's.
Merci beaucoup Marc,
merci
à toi, et puis longue vie à ton émission, et encore bravo pour ce que tu fais.
Merci, c'est sympa, merci.
Bye
à bientôt,
bye.
Au revoir.
rats in my kitchen, roaches keep me walk at night. I got rats in my kitchen, roaches keep me walk at night. I saw something in my kitchen with a great appetite. Listen to my story. Rats and roaches went back in my bedroom too. That's all my fault, catching them in. If you don't go outdoor, we're gonna drive you outdoor, and we're gonna kill you, man. You know what? They drive my pawn cat out though, and they went back in my kitchen. They ate all my beans all night long. Rats and roaches. Kid this morning, my old car didn't do a thing. When I turned the key this morning, my old car didn't do a thing. But there's somebody's connection without my pistol breathing. I got rats in my kitchen, roaches keep me walk at night. I got a rat in my kitchen, roaches give me walk at night. I saw something in my kitchen with a great appetite. I saw something in my kitchen with a great appetite. I saw something in my kitchen.
Teddy Costa and the Thompsons, extrait de cet album Until My Days Are Gone. Merci encore à Teddy pour cette interview fort sympathique. Et puis, encore une fois, longue vie au groupe. On poursuit avec un petit peu d'European Blues dans Sweet Home Chicago, alors que dans quelques secondes va résonner la pendule, 14h, hein, pour dire que ça va être la deuxième heure de Sweet Home Chicago. Voilà, on va entendre ça tout de suite dans 1, 2, 3 secondes. Allez, c'est parti.